Elle nous raconte des histoires vraies d'autrefois. On va aller voir, rencontrer Myriam Gilbert. Elle est au téléphone avec nous de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Allô, Myriam.
Allô, Annick.
Myriam, ce matin, tu vas nous raconter une histoire. En fait, c'est une histoire dont j'ai jamais, jamais entendu parler. C'est la vie hors norme de Blanche Grande-Ouette.
Oui, exactement. Moi non plus, j'en avais pas entendu parler avant de tomber sur cette histoire-là dans le dernier livre de l'historienne Rossel-Aurore Bouchard.
OK.
Donc, c'est une femme qui vivait dans la première moitié du 20e siècle. À Chicoutimi-Nord, elle était surnommée Blanche Grande-Ouette. En fait, ce surnom-là avait comme origine le père de Blanche qui s'appelait Joseph Bouchard. Donc, Blanche était une Bouchard. Et qui a perdu trois doigts dans un accident de travail qui lui faisait paraître la main comme ayant un seul doigt. Donc, Grande-Ouette est devenu Grande-Ouette.
OK.
Surnom dont a hérité sa fille Blanche. Et donc, toujours est-il que Blanche, elle détonnait pour l'époque, puis était sujet à plusieurs rumeurs parce qu'elle était d'allure masculine. Elle démolissait des bâtisses puis revendait tout ce qui pouvait être vendu. Et elle avait un bon talent de négociante, puis elle devait être assez à l'aise financièrement pour s'acheter une auto puis faire le taxi, ce qui était exceptionnel pour l'époque.
Ben oui, elle avait comme des qualités, on va dire, plus masculines pour l'époque.
Oui.
Là, aujourd'hui, ça change, mais...
Oui, elle faisait également la contrebande d'alcool qu'elle livrait à domicile. Et un jour, elle a eu assez d'argent pour faire des prêts avec intérêt. Et on raconte qu'elle avait toujours un revolver dans son taxi pour sa sécurité dans ses échanges qui étaient parfois difficiles avec ses clients. Et qu'elle ne rechignait pas à étamper ses grands doigts dans la face de n'importe qui lui manquait de respect.
Hey boy! Hey, c'est toute une personnalité!
Oui. D'ailleurs, une telle situation est arrivée lors de la conscription de 1917-1918. Des petits comiques bien déterminés à découvrir une fois pour toutes c'était quoi le fameux secret de Blanche. Lui aurait fabriqué de faux papiers l'obligeant à se soumettre à un faux examen médical devant un vrai médecin qui était mis dans le coup. Et le médecin se serait retrouvé assez rapidement par terre avec une gifle retentissante qui a été assénée par Blanche.
Bien mérité.
Oui. En fait, ce qui a été retenu par le recruteur de l'armée en octobre 1918, suite à un examen fait par le docteur Edmond Savard en 1916, c'est que Blanche, selon lui, était une pseudo-hermaphrodite qui possédait une grave malformation congénitale qui peut être enrôlée toutefois dans un corps spécial de l'armée, ce qui est quand même étrange.
Ouais.
Et, heureusement pour elle, elle n'a pas eu à revêtir l'uniforme quand la guerre a pris fin le 11 novembre suivant. Donc, heureusement. Et mais en fait, c'était pas vraiment la vérité. Selon sa famille... le vrai secret de Blanche, c'était qu'il était de sexe masculin. Il s'appelait Épiphane Bouchard à sa naissance. Et il souffrait effectivement d'une grave malformation de ses organes génitaux et d'une totale incontinence urinaire depuis sa naissance. Il est né en 1892 au sein d'une famille nombreuse et on sait qu'à l'époque, ben, les soins étaient inexistants là, pour ce genre d'anomalie.
Oui, des chirurgies. En plus, tout coûtait extrêmement cher. On payait le docteur.
Voilà, donc sa mère se mit donc à l'habiller en jaquette et en robe pour faciliter l'hygiène corporelle. Et avec l'accord de son mari, elle se mit à l'appeler Blanche et elle l'a fait passer pour une fille aux yeux de tous. Donc, il trouvait que c'était peut-être moins compliqué comme ça. Et donc, Épiphane Blanche, il n'a pas eu le choix. C'était pas un hermaphrodite, ni un pseudo-hermaphrodite, ni un travesti, ni un transgenre. Et dans le fond, c'était un homme qui vivait avec un handicap important, qui a été élevé en tant que fille. Et à l'âge adulte, on sait que les sondes urinaires n'existaient pas à l'époque, ben elle s'était bricolée un genre de culotte en caoutchouc avec une chambre à air d'automobile qui la serrait aux cuisses et à la ceinture. C'est quand même épouvantable, tu sais, d'être obligé de faire ça.
Épouvantable, puis vivre pas dans le bon sexe, en fait, finalement.
Ben non.
Ben voyons.
On peut juste imaginer que tous les conforts que ça pouvait emmener, l'irritation, les démangeaisons, les infections qui devaient faire partie de son quotidien. Mmh. Et en plus d'affronter chaque jour les regards indiscrets et les colibets. Et donc, avec l'âge, sa condition faisait qu'il lui était impossible de vivre seule. Fait qu'elle a engagé une de ses nièces, mais la cohabitation était difficile et la nièce est partie. Et donc, Blanche est obligée d'engager une autre de ses nièces qui est venue habiter avec elle et son mari et ses 6 enfants. Et l'entente notariée était claire en échange de ses soins à sa tante. Jusqu'à sa mort, la nièce hériterait de la maison et de l'argent de Blanche. Et encore là, le caractère irascible de Blanche fut difficile à vivre pour toute la famille. Mais sa nièce a quand même pris bien soin d'elle jusqu'au bout. Donc, on peut penser que, évidemment, ça lui faisait beaucoup de frustration à cette personne-là d'être dans cette
situation. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Mais oui. C'est ce qu'on raconte aujourd'hui, ça se vivait à d'autres époques aussi, là.
Ah ben oui, absolument. Et quand son état s'est dégradé au printemps 1952, ben, elle a dû être hospitalisée à l'hôpital de Chicoutimi, où les médecins ont tenté une manœuvre qui était rarement exécutée à l'époque, c'est qu'ils ont introduit directement la sonde dans la vessie. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de courant. Mais à l'époque, là, c'était
invasif.
Et pour la première fois, Blanche a pu dormir toute une nuit dans un lit au sec, ce qui l'a comblée de bonheur malgré la souffrance. C'est quand même triste de penser à ça. Hein. Et donc, elle a fini par faire une phlébite à cause de ses attaches de caoutchouc qui empêchaient la circulation sanguine. Et elle est décédée le 3 mai 59, à l'âge de 59 ans seulement. Ce qui est quand même, en tout cas, quand même vieux compte tenu de son état de santé. Là.
Oui, mais
et,
c'est toute une vie.
Elle a été enterrée au cimetière Saint-François-Xavier, puis elle a fait inscrire sur sa pierre tombale Blanche Bouchard. Et donc, elle est arrivée au monde sous le nom d'Épiphane, mais elle a choisi de le quitter sous son prénom féminin. Et donc, c'était l'histoire de Blanche Grandouette, donc, qui a fait beaucoup jaser durant toute sa vie.
Bien, merci, Myriam, de nous l'avoir partagé. Merci à Aurore Rossel-Bouchard pour l'avoir écrit. On ne l'aurait pas connue sans ça.
Oui, exactement. Bien, lui s'en rappelait, bien, elle, Mme Bouchard s'en rappelait quand elle était jeune. Donc, d'avoir vu déjà ce personnage-là là, venir chez elle. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'était pas très connu, mais c'est quand même un personnage intéressant de notre histoire.
Absolument. Si jamais on a des questions en lien avec notre propre histoire, notre propre famille, ou si on a des informations qu'on pourrait partager en lien avec l'histoire, ça peut arriver qu'on trouve des documents de nos grands-parents, on ne sait pas trop quoi faire avec. On fait quoi, Myriam?
Donc, on appelle au 418-698-3516. Mon poste, c'est le 6314. Et on peut aussi écrire à archive avec un S Saguenay, tout d'un bout, à commercialbnq.qc.ca.
Merci beaucoup. On se reparle dans deux semaines.
Oui, dans un mois.
Dans un mois. Non, mais je t'espère toujours aux deux semaines.
Oui.
On se parle dans un mois. Merci beaucoup, Myriam. Hey, quelle belle histoire. Quel beau partage ce matin.